Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Alain Le Foll. Il est tête de liste Lutte Ouvrière pour les élections municipales à Saint-Brieuc, dans la liste Le Camp des Travailleurs. Il est en direct avec nous ce matin au micro de Bretagne 5 Matin. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler de votre engagement. Alors, j'ai pris quelques notes parce que il y a longtemps, vous vous présentez aux élections municipales, sixième candidature, mais vous êtes engagé plutôt en 1981. C'est une vie de conviction, si j'ose dire.
Je me suis engagé en politique relativement tôt, d'abord parce que j'étais dans un milieu familial engagé, c'était au Parti Socialiste pour mes parents. Et puis, j'ai connu les camarades de Lutte Ouvrière en 1975. Et je me suis engagé très vite et j'ai été travailler dans une usine pour faire un travail politique à Chapoteau et Maury, qui était la plus grosse entreprise du département en 77. Et puis voilà, je suis resté jusqu'à la fin. Pendant 33 ans, j'ai essayé de défendre les idées de Lutte Ouvrière et ma conception aussi du syndicalisme, en essayant de faire en sorte que les travailleurs décident eux-mêmes de leurs actions. Donc voilà, je me suis engagé assez tôt en politique, oui.
Justement, aujourd'hui, vous regrettez qu'il n'y a pas le même engagement qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, les gens se laissent un peu porter, sont moins concernés par les luttes des travailleurs, par exemple.
Moi, je ne suis pas sûr qu'ils soient moins concernés. Ils sont écœurés, surtout par le visage, le parcours politique de certains. La droite a toujours tapé sur le monde du travail, mais la gauche n'a pas fait beaucoup mieux. Moi, j'ai le souvenir de mes parents qui votaient donc socialistes et qui ont fêté la victoire de Mitterrand en 81. Ils ont été très déçus, ils n'ont pas été les seuls. Et ils ont abandonné le militantisme. Mmh. Et comment dire, les travailleurs, ils ont subi tous les plans sociaux, la sidérurgie en 81, le blocage des salaires en 82. Ça, c'était soi-disant la gauche. Ils ont fait la même chose que la droite. Et ça a contribué aujourd'hui à voir l'émergence de d'autres courants politiques qui sont des adversaires patentés du monde du travail, comme l'extrême droite, sous toutes ses formes, que ce soit Zemmour, Le Pen et bien d'autres. Et ça pourrit la vie de millions de travailleurs. Et ça divise, ça crée des divisions au sein du monde du travail qui seront préjudiciables pour les luttes sociales. Il n'empêche que dans bien des endroits, les luttes sociales quand même persévèrent. Parce que quand on subit le blocage des salaires, les plans de licenciement qui sont nombreux par les temps qui courent, il arrive un moment où l'exaspération est plus forte que, je ne sais pas, les divisions ou les contraintes ou les pressions des uns des autres. Et nous, on mise là-dessus, on mise sur le fait que, comment dire, la politique de tous les gouvernements, quels qu'ils soient, qui tapent sur les travailleurs, à un moment donné, feront que ça explosera. Et notre rôle à nous, il est essayer d'organiser ces travailleurs, de leur donner des perspectives pour les luttes sociales. Leur faire croire, par exemple, qu'il suffit de bien voter, ça, je ne crois pas, que ça soit pour du Parti socialiste, du Parti communiste, qui ont, encore une fois, trahi. Et aujourd'hui, on voit un spectacle où le Parti socialiste vient sauver le gouvernement de Macron. Enfin bon, c'est quand même assez surprenant. Il y a de quoi dérouter un certain nombre d'électeurs et les militants de gauche. Mais c'est bien à l'image de ce que c'est que cette gauche qui a toujours été au service du grand patronat quand il y a eu des crises. Et aujourd'hui, nous, on essaye modestement de dire que le monde du travail qui fait tourner toute la société, il a les moyens d'organiser la société différemment. Et pour ça, il faut qu'il crée un parti qui lui appartienne et qu'il contrôle lui-même ses propres militants, ses propres dirigeants, pour lui donner la possibilité de renverser cette société, parce qu'il n'y a pas de choix. Faire croire qu'en votant bien, aujourd'hui, il y a toute une campagne, que ce soit au niveau des municipales, au niveau national, de faire croire qu'en votant pour LFI, par exemple, et j'ai des amis à LFI, c'est pas un problème, ça changerait les choses. C'est pas vrai. Mmh. Tant qu'on laisse les grandes entreprises et les milliardaires décider en fonction de leurs seuls intérêts, il n'y a pas de solution.
Alors aujourd'hui, on voit le monde du travail qui est qui est très fragilisé. Les entreprises, beaucoup d'entreprises ont délocalisé. On l'a vu ces 10 dernières années en particulier. Et aujourd'hui, il y a une crise qui se fait jour. On dira un petit mot aussi de la recomposition géopolitique tout à l'heure. Elle est importante aussi pour le monde du travail. On entend aussi les entreprises de la défense. On a entendu le président de la République hier qui faisait ses voeux aux armées, qui veut là aussi relancer l'industrie de la défense. Est-ce que c'est bon pour les travailleurs, ça, finalement?
Bah, je crois que si on donnait la possibilité aux travailleurs de décider entre faire des choses utiles pour l'ensemble de la collectivité ou faire des armes pour s'entretuer, je pense que si on leur donnait le pouvoir de décider, ils décideraient tout autre chose que ce que prévoit Macron, comme les autres. Hein. Mais enfin, je note quand même que Macron, il était capable de trouver 10 milliards pour faire un porte-avions qui sortirait éventuellement en 2038. Par contre, pour tout ce qui est les budgets sociaux, etc., où l'État envoie tous l'état des écoles, de la santé, des hôpitaux, etc., qui se dégradent. Bon, là, il n'y a pas d'argent, mais par contre, on va demander aux assurés de passer à la caisse encore un peu plus. Donc ça, c'est des choix de société. Mais justement, vivre dans une société où l'avenir, c'est de fabriquer des armes et de s'entretuer, parce qu'il y a une logique. Quand on fabrique des armes, malheureusement, elles servent. Alors aujourd'hui, on fait la guerre par procuration, avec des guerres, parce qu'il y a aujourd'hui plus de 50 conflits de par le monde. On parle de l'Ukraine, on parle de Gaza, etc., mais il y en a plein d'autres, au Congo, au Soudan, enfin, etc. Hein, tout ça, c'est avec des armes, y compris fabriquées ici. Et je pense que c'est quand même offrir un avenir quand même morbide à la jeunesse, de lui dire que demain, on va lui faire combattre d'autres jeunes qui n'ont rien fait. Nous, on pense qu'il faut renverser la société. Pourquoi ? Parce que cette société capitaliste, qui ne tourne qu'en fonction des intérêts d'une petite minorité, eh bien, elle ne peut provoquer que guerre. Mmh. Parce qu'en période de crise, elle n'a pas d'autre solution pour s'en sortir. Et quand on est gouverné, parce que Macron, ce n'est qu'un pion au service des Bolloré, des Arnault, des Peugeot, des fabricants d'armes, eh bien, tant qu'on laisse ces gens-là décider à notre place, eh bien, ils ne pourront provoquer que des guerres parce qu'il arrive un moment où le marché n'étant pas extensible, ils ne peuvent que s'en prendre à d'autres pays. Et mais ça se fait avec la peau de la population. Et donc, nous, on pense qu'au lieu de fabriquer des armes, eh bien, on pourrait fabriquer des choses bien utiles à la collectivité, entre autres dans les hôpitaux, dans les écoles, faire en sorte que ça fonctionne mieux avec du matériel et du personnel en nombre. Mais ça nécessite que c'est la population qui se donne les moyens de décider. Et ça ne peut se faire que par un rapport de force et non pas par un bulletin de vote.
Alors un rapport de force, il y en a au niveau géopolitique. On a vu Donald Trump cet an dernier être très offensif. Bon là, sa nouvelle marotte, c'est le Groenland. Mais il y a quand même une forme de recomposition des grands empires, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit évidemment la Russie de Vladimir Poutine, ou encore la Chine qui reste en embuscade économique en particulier. Là, ça nous ramène directement au monde du travail. Beaucoup d'importations des voitures, par exemple chinoises, font que, aujourd'hui, on a du mal à vendre nos voitures ici en France ou en Europe. Est-ce que c'est aussi un sujet d'inquiétude ?
Je crois que le sujet d'inquiétude, il n'est pas là. Et parce que ce soit les dirigeants, alors je ne défends pas ni les dirigeants russes ni les dirigeants chinois, mais je constate par exemple qu'un groupe comme Peugeot, il s'est allié à un groupe de fabrication de voitures chinois qui va faire des voitures, en Chine pour les importer sur le marché européen. Est-ce que c'est de la concurrence chinoise ou c'est de la concurrence interne française? Bon, c'est surtout, on essaie de nous dresser les uns contre les autres, des travailleurs chinois contre les travailleurs européens ou autres. Mais tout ça, qui est-ce qui tient les cordons de toute l'économie? C'est les Peugeot, c'est les Arnault, etc. Et ils le font en fonction de leurs intérêts. Et ils sont prêts à faire des entreprises dans les différents pays parce que la main-d'œuvre est moins chère, parce qu'il y a des accords, etc. Mais c'est certainement pas pour le bien de la population. Mais par contre, ça leur permet de dresser la population en disant « bah oui, c'est les Chinois qui nous... » Mais c'est quand même toujours eux qui tiennent... Et ça, je le dis pour l'automobile, je pourrais le dire pour les entreprises textiles. La plupart des fringues que l'on a ici sont fabriquées en Inde, au Bangladesh, etc. Et pour des entreprises, des grandes marques qui sont bien françaises ou bien européennes. Donc non, ça c'est un faux... Enfin, comment dire, Moi, je comprends très bien qu'on essaie de nous dresser contre d'autres travailleurs, mais il ne faut pas qu'on rentre dans ce piège-là. Je vais vous donner un autre exemple qui est local, pour le coup, hein, dans l'agroalimentaire. La Coperle, ils ont une énorme usine en Chine. Je ne sais pas si ça se sait. Hein, et c'est des embryons de porc français, mm-hmm, qui ont été envoyés en Chine pour faire du porc soi-disant chinois. Mais bon, tout ça, c'est de la viande. Hein, et tout ça, c'est pas la Coperle qui se fait concurrence, c'est qu'ils considèrent qu'ils vont pouvoir avoir un marché plus grand. Et ils ont un tas d'entreprises comme ça de par le monde, en particulier en France, bien sûr, mais ils en ont. Et c'est 7700 salariés, on est loin des 24 éleveurs qui avaient démarré en 63. Hein, tout ça, c'est devenu des monstres qui échappent complètement au contrôle et des salariés de ces entreprises, et surtout de la classe ouvrière qui pourtant fait tourner toute la société et qui pourrait faire d'autres choix. Parce que plutôt que de faire de la production à outrance, on pourrait peut-être faire de la production de qualité d'une autre façon.
C'est un peu ce que demandent aussi les agriculteurs. On les entend beaucoup. En ce moment, ils ont ressorti des tracteurs. Il y a le traité du Mercosur qui va être signé ce week-end. Mais il y a aussi cette grave crise agricole, cette désespérance agricole. Là aussi, il aurait fallu réformer. Alors, je sais que la question est vaste. Hein. Vous ne pourrez peut-être pas me donner la réponse ce matin. Mais il aurait fallu réformer, penser autrement l'agriculture.
Moi, je suis fils d'agriculteur, hein, donc je connais un petit peu la chose, même si je n'ai pas pris le relais de mes parents. Mais l'agriculture n'échappe pas au reste. L'agriculture, c'est devenu. D'ailleurs, quand on dit petits agriculteurs, moi, ça me fait un peu sourire, parce que je crois qu'il n'y en a plus beaucoup de petits agriculteurs. Mmh. C'est devenu là aussi des grosses entreprises pour la plupart, et je constate. Quand même, moi, je trouvais un débat surréaliste avec la présidente de l'Assemblée nationale, avec le dirigeant de la FNSEA au milieu des tracteurs, devant l'Arc de Triomphe, là, il y a quelques jours, où Rousseau, donc le président de la FNSEA, qui fait quand même du commerce avec l'Amérique latine, donc est maintenant contre le Mercosur, alors que je suis persuadé que le Mercosur et fondamentalement ces entreprises, fait du commerce avec. Faut quand même rappeler que ce gars-là, il est président du groupe Avril, qui est le quatrième plus gros groupe d'agroalimentaire de France. Il est dans le conseil d'administration de 16 entreprises, 16 grosses sociétés, et je crois qu'il a pas grand-chose à voir le petit paysan breton. Ou le petit paysan auvergnat, si tant est, il en est encore. Donc, non, l'agriculture, c'est devenu une industrie comme les autres, qui dépend et des groupes d'agroalimentaires, des banques, hein, qui, comme le Crédit Agricole, entre autres. Et donc, l'agriculture fonctionne comme n'importe quelle industrie et est régie par les mêmes, c'est-à-dire des gens qui ne pensent qu'à faire du fric, y compris en empoisonnant les terres, en contraignant les paysans à avoir des pesticides, à avoir des normes, parce qu'on dit les normes, c'est imposé par l'État, mais c'est aussi des normes ou du moins des réglementations qui sont imposées par des grands groupes d'agroalimentaires. Par exemple, j'ai lu ce matin, juste une parenthèse, je reviens sur la Coperle en l'occurrence, là, la Coperle achète le prix du porc fixé par la Coperle est moins élevé que le prix moyen du porc. C'était 1,34, je crois, j'ai lu ça dans un journal ce matin. C'est 1,34 par la Coperle et 1,42 par le prix moyen du porc. Donc là aussi, c'est les grands groupes d'agroalimentaires qui fixent leur prix, et puis c'est aux éleveurs, en l'occurrence, de se soumettre. Je pense que si les agriculteurs voulaient vraiment une autre façon de faire et avoir leur mot à dire, il faudrait se débarrasser de ces grands groupes, du moins de ces grands dirigeants qui ne pensent qu'à faire du fric, et que ce soit les agriculteurs eux-mêmes qui décident de comment ils produisent. Et je pense que la majorité des agriculteurs, là aussi, si on leur demandait leur avis, ils préféraient avoir de la culture propre et de pouvoir élever les bêtes et cultiver leurs terres proprement plutôt que en fonction du profit que certains peuvent en tirer.
Alors, là aussi, l'agriculture, nourrir les gens, c'est important. Et les nourrir à combien? Puisque aujourd'hui, il y a une grande précarité, il y a une grande inquiétude sur l'avenir. Le pouvoir d'achat a beaucoup baissé. Là aussi, il y a des clés à trouver pour redonner du pouvoir d'achat pour faire en sorte que les gens aient un peu plus foi en l'avenir. Alors, malgré le contexte géopolitique, on l'évoquait en commençant, très compliqué et très guerrier, il faut redonner foi, justement, aux Français, aux Bretons, aux Bretonnes.
Je pense que, bon, moi j'ai toujours la foi dans les capacités de la classe ouvrière à changer les choses. Bon, si j'en parle de foi, c'est celle-là, moi. Mais oui, de l'argent et pouvoir faire en sorte que les gens puissent vivre correctement, il faudrait prendre sur les bénéfices des grosses entreprises. Moi, je suis outré de voir, par exemple, que entre 200, enfin, c'est un rapport du Sénat qui a dit qu'il y avait 211 milliards d'aides publiques qui allaient aux entreprises privées. Pour d'autres, c'est 270 milliards. Enfin, bon, je vais même pas chipoter sur le chiffre, mais c'est des chiffres quand même assez colossaux. Et ben, cet argent-là, il serait certainement plus utile, à faire fonctionner normalement les services publics. Et à augmenter et à permettre d'augmenter les le pouvoir d'achat de bien des gens. Mais ça, c'est pas l'argent public qui doit servir à augmenter le pouvoir d'achat des gens, mais c'est surtout les bénéfices et les profits des grandes entreprises qui devraient justement répartis pour faire en sorte que les travailleurs puissent avoir les moyens de vivre correctement. Mais moi, je vais plus loin. C'est-à-dire que je pense que la société, puisque c'est les travailleurs dans tous les domaines qui font tourner la société, qu'en soit dans le public, dans le privé, c'est eux qui devraient l'organiser, cette société. Et on ferait d'autres choix et on ferait des économies. Des économies, on parlait tout à l'heure des dépenses d'armement. Eh bien, on pourrait s'en passer. Mais surtout, on ferait des économies parce que les milliards qui sont, accaparés par les actionnaires qui ne produisent rien, hein, mais qui ne passent à la caisse et qui ramassent le pactole, et l'argent qui a été créé par le travail de millions de salariés, ben cet argent-là, il serait justement bien plus utile pour avoir de meilleures conditions de travail, de meilleures de conditions de salaire. Mais ça, ça ne pourra se faire que si les travailleurs prennent le contrôle de la société. Et moi, je dis que c'est possible. Et là, quand je disais que j'ai la foi dans les travailleurs, c'est qu'ils font tout tourner dans cette société. Ils n'en ont pas forcément conscience parce qu'on leur dit, on leur rabâche que la politique, c'est sérieux, qu'il faut qu'il y ait des dirigeants, etc. Moi, je dis toujours, il faut qu'il y ait des gens pour organiser le travail. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des gens pour accaparer le travail des autres? Moi, ça, je ne crois pas. Et c'est cela que je pense qu'il faut quand même s'attaquer à ces gens-là.
Alors je disais en commençant, vous vous présentez donc pour les élections municipales à Saint-Brieuc. Alors Saint-Brieuc, cité ouvrière pendant de longues années, s'il en est, c'était cheminote aussi. Voilà, une grande activité ferroviaire à Saint-Brieuc. Aujourd'hui, c'est une cité qui a suivi, j'allais dire, l'évolution de la société avec beaucoup de tertiaires pour parler directement. Est-ce que aujourd'hui il faut remettre l'humain au cœur d'une cité comme Saint-Brieuc? Est-ce qu'il faut prendre en compte tous ces aspects de l'humain? Et là encore aussi, on parlait de précarité tout à l'heure, mais essayer de développer alors ce fameux terme générique que j'aime pas tellement personnellement, mais le fameux vivre ensemble.
Je crois que tout le monde peut vivre ensemble, ce n'est pas un problème. Mais d'abord, moi, je ne crois pas qu'il y ait un problème spécifique à Saint-Brieuc. Et là aussi, quand on dit « ensemble, on fera mieux », par exemple, comme certains mettent sur leur tract pour les municipales, bon, c'est peut-être joli, mais c'est pas sérieux. On peut pas faire un havre de paix dans une situation catastrophique autour. Donc moi, je fais pas de promesses. La seule promesse que je fais, c'est d'essayer de faire entendre dans cette campagne la voix du monde du travail qui n'est pas beaucoup entendue. On tient pas forcément compte de la vie de ceux qui font tourner la société. Moi, c'est cette voix-là que je tiens à défendre et dire.
On n'écoute pas assez les gens, monsieur, madame, tout le monde sur le terrain.
Non,
on leur donne pas assez la
parce
parole.
Que je pense qu'on considère que ceux-là, ils n'ont pas forcément leur mot à dire. Et quand je dis les travailleurs, faut leur donner la parole, c'est y compris ceux qui n'ont pas le droit de vote. Parce que de par le monde et à Saint-Brieuc comme ailleurs, il y en a beaucoup qui travaillent, entre autres dans l'agroalimentaire, qui sont d'origine différente. Je parle par exemple à la Coperle encore, il y a plusieurs dizaines de nationalités différentes. Ils travaillent tous ensemble. Ben moi, je veux représenter tous les travailleurs, qu'ils soient français, immigrés, etc. Parce que, encore une fois, c'est eux qui font tourner la société et c'est eux qu'on doit entendre. Et il faut en faire entendre leurs revendications sociales, mais aussi la nécessité de contester cette société qui nous envoie vers la barbarie, quand même. Alors, je dépasse le cadre de Saint-Brieuc, mais il faut bien comprendre que si on laisse la société telle qu'elle est aujourd'hui, d'ailleurs, d'ailleurs, la plupart des débats, la plupart des discussions qu'on a entre travailleurs, c'est même pas sur le pouvoir d'achat, même si c'est un problème important, c'est aujourd'hui les menaces de guerre, de voir nos enfants, par exemple, comme l'a dit un général, fallait être prêt à sacrifier nos enfants. Ben oui, aujourd'hui, malheureusement, cette société qui nous envoie vers la barbarie, elle est capable d'envoyer des jeunes s'entretuer. Et alors, ça dépasse le cadre des élections municipales, mais c'est tout ça que moi, j'ai envie de porter, de faire entendre qu'on ne peut pas continuer dans cette société qui va nous envoyer dans le mur. Et pour, encore une fois, pour sauver les fortunes de quelques-uns. Et donc, moi, je crois que les gens sont prêts à vivre ensemble, pour reprendre ce que vous disiez, parce que il n'y a pas d'hostilité les uns avec les autres. C'est des hostilités qui sont créées justement pour diviser, parce que si les travailleurs n'ont pas conscience de leur force, la bourgeoisie, elle, elle a la conscience qu'elle est une minorité et que ça peut lui péter la figure. Et donc, pour pouvoir se maintenir en place, elle a évidemment besoin d'un personnel politique dévoué, quel qu'il soit, quelles que soient les étiquettes, droite ou gauche, ou d'extrême droite, hein, mais ils ont surtout besoin d'une classe ouvrière soumise. Et soumise, on le voit aujourd'hui, la militarisation de la population, ça commence aujourd'hui par la jeunesse, aujourd'hui, qui va avoir le plaisir, c'est de l'ironie, je précise quand même, de voir des généraux bientôt débarquer dans leur classe pour leur dire « engagez-vous, engagez-vous ». Bon, ben, moi, je pense qu'il y a un autre avenir à offrir à la jeunesse. Et l'avenir que je propose, c'est de combattre cette société pour créer un monde meilleur, et ça ne peut reposer que sur la classe ouvrière.
Je reviens un petit peu au local, parce que c'est important. Si on parlait de toutes ces personnes qui ont parfois du mal à évoluer dans la société, du mal à vivre. Il y a la question du logement. Alors, c'est une question ici à Saint-Brieuc. Là aussi, il faut avoir une politique, si vous me permettez le terme, volontariste, pour prendre un terme en vogue, sur le logement, faire en sorte qu'il n'y ait plus personne à la rue.
Ben, moi, je trouve ça indigne qu'une société riche comme la France, là je reprends le problème général, qu'il y ait des gens qui meurent dans la rue. Il y a quand même aujourd'hui des logements vides. Et il y a même une loi, sauf si elle a été abrogée, mais je crois pas, de 47, qui peut permettre, de réquisitionner les logements vides, qui est rarement appliquée. Et qui peut d'ailleurs être appliqué, je crois, à l'échelle d'une commune. Donc ça, on pourrait trouver des solutions et construire des logements sociaux, des logements pour faire en sorte que tout le monde, toutes les habitations soient correctes. Ça devrait être pris en charge par une régie nationale et non pas laissé à des groupes privés qui, évidemment, cherchent à faire du profit et envoient les catastrophes de temps en temps parce que les matériaux, on a fait avec des matériaux de bas de gamme et des bâtiments ne tiennent pas le coup. Donc je pense qu'il faudrait une politique volontariste de l'État de construire des logements sociaux en nombre et de qualité suffisante. Et à l'échelle de Saint-Brieuc, par exemple, il y a aujourd'hui un certain nombre de logements vides, mais ce qui se passe, c'est que Saint-Brieuc, c'est une ville pauvre, c'est une des villes les plus pauvres de Bretagne, on oublie de le dire, mais... Et donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il n'y a pas une solution locale, que ça soit sur le logement ou sur d'autres sujets, parce qu'on pourrait aussi parler, et il y a un petit peu un corollaire, on est mal logé, on est mal considéré, etc. Il y a de la délinquance, on ne va pas régler le problème en augmentant le nombre de caméras ou de flics.
Justement, vous poser la question, parce qu'il y a une inquiétude là-dessus.
J'ai anticipé sans le faire exprès.
mais c'est très bien.
Mais je pense qu'à la fois sur le logement et à la fois sur la sécurité, on ne pourra régler ces problèmes-là que si on donne du travail à tout le monde. C'est-à-dire que si aujourd'hui, si on donnait un travail à tout le monde et avec un salaire qui permette de vivre, je pense qu'on réglerait bien des problèmes d'incivilité, comme on dit, de petite délinquance. Et par contre, pour régler la grosse délinquance, il faudrait s'en prendre. Par exemple, quand on parlait il y a quelque temps de la drogue, qui aujourd'hui touche aussi une partie de la population briochine comme ailleurs, mais le trafic de drogue, c'est une industrie d'ailleurs qui rapporte 4 milliards... ça pèse 4 milliards en France. Mais qui est-ce qu'il y a derrière? C'est pas le petit délinquant qui tient une porte au pied d'une tour. Ça, celui-là, on va l'arrêter, bon, etc. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que ce qu'il fait, c'est bien. Mais c'est une industrie entre les mains de gens qui sont puissants. Et ça, il faudra s'en prendre à ces gens-là comme à n'importe quel vulgaire capitaliste. Il faut les considérer de la même façon. Mais tant qu'on verra aujourd'hui, des salaires très bas, etc. Ou par exemple un jeune quand il voit ses parents trimer pour avoir combien 1200, 1500 euros à la fin du mois, alors que lui, en faisant des petits trafics ou en du moins en étant guetteur, etc., il va gagner plus que ses parents, ben oui, il y aura toujours une petite fraction de la jeunesse qui pourra basculer dans cette délinquance-là. Mais c'est à l'image de la société qui est extrêmement violente. Quand on voit que cette société, elle est capable de mettre à la rue du jour au lendemain des centaines de travailleurs en les licenciant, etc., ben c'est une société violente. Alors qu'il y ait des gens après à basculer, parce qu'on dit la délinquance, etc., c'est un problème. Mais la première délinquance, c'est de priver quelqu'un de son emploi. Et moi, c'est celle-là, on n'en parle jamais. On considère que c'est le fonctionnement normal de la société. Moi, je pense que c'est justement, c'est les plus grands délinquants, c'est le grand patronat.
Avec des questions pratiques aussi, pour des villes comme Saint-Brieuc. Ça va nous ramener à la grande politique, si vous me permettez le terme, avec les guillemets qui s'imposent. Aujourd'hui, on sait que le budget qui ne sera pas voté, finalement, à l'Assemblée nationale, va passer a priori par un 49-3 ou par ordonnance. C'est à la discrétion du Premier ministre, il l'a dit en tout cas. Des difficultés budgétaires, des économies à faire, la France est très endettée. Comment faire en sorte que l'État verse sa contribution aux villes, aux communes, aux collectivités, pour qu'elles puissent fonctionner et justement appliquer, par exemple, un programme social dans des villes comme Saint-Brieuc?
Mais là aussi, moi je crois qu'il n'y a pas de miracle, hein. Il n'y a pas de miracle. Comment dire, c'est l'État aujourd'hui. D'ailleurs, je comprends très bien que ce soit les villes, les départements ou les régions, pardon, qui crient misère parce qu'ils n'ont pas les moyens de fonctionner. Enfin, la ville de Saint-Brieuc, par exemple, a augmenté son endettement là, dans la dernière période. Mais bon, je ne vais pas faire le procès de la municipalité, même s'il y aurait des choses à dire, parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens de fonctionner. Mmh. Et ça repose sur la politique de l'État, qui a été finalement de limiter les dotations des communes, des régions, etc. Et donc, pour ça, bah, il faudra que... Il n'y a pas d'autre solution que le monde du travail impose par un rapport de force, je précise bien, parce que on va rentrer dans une grande campagne électorale, pas simplement municipale, mais tout le monde a déjà en vue les présidentielles 2027.
Et la pleine proue commence cette campagne
oui,
déjà.
Oui, et donc il y a beaucoup de promesses et beaucoup etc. Mais bon, il suffira pas de voter. Moi, depuis 200 ans que le bulletin de vote est utilisé, je n'ai pas vu les changements. Le seul changement, c'est quand les travailleurs se mobilisent. Et y compris, ils ont fait reculer dans certaines périodes un des gouvernements dans une période de crise, comme en 1936, comme en 1968, où ils ont été capables d'imposer des reculs, au gouvernement. C'est pas une loi qui a... en 68, si le SMIC a augmenté de 30%, c'est avant tout grâce à la mobilisation de la population de l'époque. Donc, il n'y aura pas d'autre choix que de renverser l'ordre social capitaliste, parce que les gouvernements sont au service d'une classe sociale bien déterminée. Et ça, c'est les travailleurs qui font encore une fois tourner la société, veulent un autre changement, bah, c'est à eux de l'imposer. Ça ne pourra se faire que par une mobilisation sociale.
Il nous reste une petite minute. J'ai envie de vous poser la question de la campagne sur le terrain. J'imagine que vous rencontrez les briochines et briochins, que vous discutez avec eux, qu'ils vous font part peut-être de leurs desiderata, de leurs idées pour la suite, comme l'on dit. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Allez, il nous reste une petite minute.
Bah, déjà, nous, on est militants toute l'année, c'est-à-dire qu'on se présente aux élections pour faire entendre, évidemment, notre voix, mais c'est surtout qu'on est en contact avec la population toute l'année. On vit dans les quartiers, on discute avec la population en permanence. On fera même une journée d'activité samedi prochain. On sera dans le centre-ville au contact avec la population. Et encore une fois, ce qui nous paraît important, c'est de dire qu'il faut que les travailleurs reprennent confiance dans leur capacité à changer les choses. Parce qu'on a tellement démoralisé les travailleurs en les trompant, il faut qu'ils votent pour leur camp, mais qu'ils fassent entendre leur colère et qu'ils se donnent les moyens de s'organiser pour justement faire en sorte que leurs intérêts soient défendus, pas simplement les intérêts économiques, mais qui contestent à la société capitaliste aujourd'hui la domination de la société. Ça ne pourra se faire que par une mobilisation de tous les travailleurs. Mais ils en ont les moyens. Et ça, on a confiance en eux. Et c'est ça qu'on veut faire entendre dans la campagne des municipales.
Et ce sera notre conclusion à Alain Le Foll, tête de liste de lutte ouvrière pour les élections municipales à Saint-Brieuc, dans la liste qui porte le nom « Le camp des travailleurs ». Vous y faisiez référence il y a quelques minutes. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin sur les ondes de Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée.
Bien, merci à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.